Donc bonjour à toutes et à tous. Merci particulièrement donc à Sabine de m'avoir invité à cette journée. Je crois que c'est vraiment moi je le considère comme un très grand luxe qui me change un peu du travail quotidien effectivement à la centrale. De pouvoir quand même venir échanger avec vous sur cette rénovation donc que j'ai portée, qu'on a initiée avec tout un groupe donc en 2009. Et de pouvoir échanger ça tranquillement, je veux dire, dans un temps qui n'est pas le temps que l'on connaît, enfin à Paris, mais même ailleurs, où ça va trop vite, les choses vont toujours trop vite, où on va pouvoir peut-être prendre le temps d'échanger, et en même temps de l'aborder sous un angle un petit peu différent que suggèrent effectivement vos travaux, qui est celui de la professionnalité des enseignants. Et ça m'amène effectivement à regarder de manière un peu différente, y compris le projet qu'on a porté, en m'interrogeant systématiquement effectivement sur la professionnalité des enseignants, en quoi elle change et en quoi effectivement notre prescription, puisque c'est de la prescription évidemment, nous sommes les prescripteurs en chef, en particulier à l'inspection générale, va modifier les comportements professionnels. Moi, j'ai mis enjeux et perspectives pour la professionnalisation. Alors, professionnalisation peut être pris sous deux dimensions. Il y a des enjeux et des perspectives pour la professionnalisation des jeunes, parce que à travers cette réforme, comment est-ce qu'un jeune qui sort de collège ou ailleurs et qui est un collégien en tant que tel va se transformer petit à petit en jeune professionnel pendant 3 ans? Ça, c'est une vraie question sur ce processus de professionnalisation des jeunes. C'est une question passionnante à laquelle on est très, très sensible. Et puis, la professionnalisation, ça porte aussi, bien évidemment, la dimension enseignant. Qu'est-ce que c'est qu'être enseignant dans l'enseignement professionnel aujourd'hui? Quelles ambitions, quelles valeurs on porte en appartenant à l'enseignement professionnel? Alors j'allais dire qu'est-ce que c'est qu'être enseignant, mais qu'est-ce que c'est aussi être chef d'établissement de lycée professionnel? Bref, qu'est-ce que c'est être acteur de l'enseignement professionnel aujourd'hui? Et je trouve que derrière tout ça, il y a des questions passionnantes. Alors, bon, je ne me suis pas présenté, donc je suis Didier Michel, je suis inspecteur général. J'appartiens au groupe économie-gestion, à l'inspection générale, il y a 14 groupes disciplinaires, bref, je ne vais pas revenir sur l'organisation. Mais je suis également, depuis un peu plus d'un an, donc assesseur du doyen général de l'inspection générale, en charge de l'enseignement professionnel. On est 3 assesseurs. Il y a un assesseur qui s'occupe du primaire et de la scolarité obligatoire, on dit primaire et collège. Il y a un assesseur qui s'occupe du moins 3 plus 3. Et puis, il y a un assesseur qui s'occupe de l'enseignement professionnel. Donc, toutes les questions qui traversent l'enseignement professionnel, eh bien, j'y suis effectivement très, très sensible. Ce qui veut dire que la réforme GA, très, très naturellement, elle me porte dans la réflexion majeure, y compris sur nos spécialités de la production, les spécialités, les autres spécialités des services et autres. C'est aussi, quelque part, une anticipation d'un modèle, peut-être, d'enseignement professionnel. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est très, très porté. Bon. Alors, je suis un petit peu embêté aujourd'hui pour positionner mon intervention parce que vous êtes un public qui est peut-être très hétérogène par rapport à l'appropriation de GA. Il y a peut-être parmi vous des enseignants qui enseignent en GA, je ne sais pas, il y a des chefs d'établissement, des formateurs, bref. Donc, je vais créer de la frustration parce que j'irai très vite sur certains aspects pour ceux qui ne baignent pas dans GA. Et puis, voilà, donc ça risque peut-être d'être... et puis, je vais créer aussi peut-être de la lassitude pour les professeurs de GA, complètement impliqués dedans, qui vont se dire, bon, ça, on connaît, il aurait pu aller plus vite. Donc, d'avance, vous m'excusez, effectivement, pour ces deux aspects. Bon, juste pour dire simplement sur cette rénovation, c'est une rénovation donc qui a démarré en 2012 en classe de seconde. Donc, elle est actuellement au niveau de la classe de première, et l'an prochain... 2015, nous aurons les premiers bacheliers professionnels gestion-administration. Ce qui fait qu'on est cette année sur la dernière année des bacheliers secrétariat et bacheliers comptabilité. Ça, c'est dans le... Mais c'est un projet qui a démarré en 2009 avec un travail effectivement, vous voyez, de 3 ans, de 2009 à 2012. Un travail assez lourd de préparation de cette rénovation. Et le groupe qui m'a accompagné, il y a certains membres du groupe qui sont ici présents, On a passé d'abord un temps fou à travailler sur le métier. Et ça, c'était très très lourd comme travail. On a pensé qu'il fallait pas tout de suite se mettre dans l'écriture d'un référentiel, on le verra un peu après, mais ce qu'il fallait absolument faire, c'est dégrossir un petit peu ces métiers extrêmement complexes qui sont les métiers administratifs. On dit souvent que ce sont des métiers transversaux, où il y a de la polyvalence, des choses comme ça, donc ça amène effectivement un certain flou dans la définition des métiers. Il y a à peu près 160 appellations, par exemple, de ces métiers, quand ils sont déclinés, effectivement, dans les entreprises. Donc on arrive sur un champ extrêmement large. Il ne s'agit pas de faire, effectivement, un référentiel alors de génie civil ou d'autres, c'est-à-dire où les métiers sont très circonscrits, où ils sont assez physiquement identifiables. Là, on était sur quelque chose d'extrêmement complexe à analyser. C'est pour ça qu'on a passé du temps à définir ce métier. Et le temps, on l'a passé avec des professionnels. On a fait à peu près donc une quarantaine d'auditions de professionnels en activité, en les écoutant parler de leur métier, de leurs activités. Et puis, on a rassemblé tout ça, effectivement, dans ce concept, de gestion administrative, qui était le concept le plus large possible pour englober tout ce que l'on avait entendu de la part des comptables, de la part des assistantes de direction, de la part de la SNCF. Enfin bref, il y a eu plein d'auditeurs comme ça qui sont exprimés tout ça. Et c'est finalement ce concept de gestion administrative qui nous a semblé le plus pertinent et le plus englobant. Alors, on ne pouvait pas se permettre, on le verra après dans l'appellation, faire une appellation métier. On voulait pas dire, je sais pas, le bac professionnel technicien administratif, parce que les appellations métiers sont tellement différentes qu'on ne pouvait pas se permettre de fixer un nom de métier bien identifié sur ce baccalauréat. Donc on a fait des domaines. Et les titres de ce baccalauréat, gestion administration, ce sont deux domaines généraux, mais qui incluent la plupart, effectivement, de tous ces métiers qui se déclinent de manière très très différente dans la réalité. Alors, les enjeux sont différents. Il y a 5 grands types d'enjeux en termes de professionnalité pour les enseignants. Il y a d'abord les enjeux liés à cette rénovation, de point de vue général. Il y a les enjeux qui sont liés au projet global, quelles étaient les intentions, quels étaient le cahier des charges. On le verra après de manière un peu plus précise. Il y a eu des choix de construction de ce référentiel. Il est particulier dans sa construction. Unique peut-être pas, quoique, mais en tout cas, il est différent de tout ce qui s'est fait jusque-là dans la construction même. Donc là, il y a des enjeux en termes de professionnalité aussi des enseignants, parce que le référentiel n'est pas identique à ce qu'ils ont connu avant ou ce qu'ils peuvent connaître ailleurs. Il y a des enjeux qui sont liés au projet pédagogique qui est porté aussi par cette rénovation. Parce que finalement, on aurait pu aussi se contenter, d'écrire un référentiel et puis de le mettre dans la nature, de le dispenser, de le diffuser, et puis de dire, bah oui, c'est le référentiel, il faut l'appliquer, donc d'être dans le prescrit, de manière très très sèche, à travers un référentiel. Or, derrière tout ça, il y a un vrai projet pédagogique de formation. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de professionnalisation. Le projet pédagogique, il vise à professionnaliser des jeunes. Et on verra ce que veut dire professionnaliser, effectivement, des jeunes. C'est pas forcément leur interdire une poursuite d'études. D'ailleurs, moi, j'aime mieux le terme « poursuite de professionnalisation ». Un BTS, c'est une poursuite de professionnalisation, ce n'est pas une poursuite d'études pour nos bacheliers. Donc on est dans ce projet pédagogique, on pourra peut-être étudier un peu tout ça. Et puis il y a un dernier type d'enjeux qui sont ceux liés à l'évaluation, à la certification. C'est des enjeux très très vifs en ce moment. Vous le savez, au niveau national, les rencontres avec les syndicats et autres. Donc là, il y a des discussions extrêmement fortes qui débordent d'ailleurs largement GA. Vous savez notamment que le CCF est quelque chose qui est très questionné en ce moment. Eh bien, on verra aussi que la réponse qui peut être apportée, la réponse qui peut être apportée modifie aussi les pratiques professionnelles. Alors, les enjeux institutionnels de la rénovation, vous les connaissez. On est dans le contexte général de la réforme de la voie professionnelle, donc qui s'est engagée en 2008 dans certaines académies et généralisée en 2009. Je ne vais pas vous faire l'injure de ce qu'est la réforme de la voie professionnelle, mais le cursus 3 ans, l'insertion d'un diplôme intermédiaire, les passerelles, enfin bref, tout ce qui peut se mettre en place autour de ça, l'introduction de l'accompagnement personnalisé et autres dans les formations. On sait que cette réforme de la voie pro s'est accompagnée de grandes tensions sur le terrain. Ça a été dit dans les rapports de l'inspection générale. Donc on est. Alors ces tensions, elles s'expliquent. Oui, parce que la plupart du temps, on a ramené un cursus 3 ans sans modifier les baccalauréats, qui eux étaient programmés pour 2 ans, mais après 2 ans de BEP, donc qui étaient finalement globalement dans un cursus de 4 ans là-dessus. Et là, donc ça a posé vraiment des questions, en particulier pour tous ces baccalauréats qui n'étaient pas rénovés. Et nos baccalauréats comptabilité et secrétariat sont dans ce cas-là. Donc il fallait quand même faire quelque chose aussi à ce niveau-là. L'autre aspect aussi, c'est que toute cette rénovation de la voie professionnelle, et c'est sans doute la plus grande fragilité qu'il y ait eu, c'est qu'au-delà de ses ambitions, elle s'est inscrite dans un contexte budgétaire très restreint. C'est un euphémisme. Ça veut dire qu'on a été dans une réduction des postes, massive, réduction de l'offre de formation, ce qui fait que les professeurs se sont à la fois vus finalement appliquer une réforme de la voie professionnelle en même temps avec des incertitudes fortes sur les moyens qui étaient mis à la disposition. Donc finalement, on l'a écrit, nous, l'inspection générale, c'est une réforme qui n'a pas eu les moyens de ses ambitions. Comment diffuser une rénovation alors qu'on est dans un contexte effectivement extrêmement restreint, donc fortement déstabilisant? Ça posait effectivement question. Mais il y a d'autres enjeux qui sont arrivés derrière. Il y a eu derrière ça aussi les tensions, c'est les nouveaux publics accueillis, vous le savez bien. Alors, on a beaucoup parlé d'élèves beaucoup plus jeunes qui arrivent maintenant en lycée professionnel. Bon, on l'avait chiffré à 0,8 mois. Hein. C'est pas non plus 2 ans de moins ou 1 an et demi de moins. Mais effectivement, on a quand même des publics beaucoup plus jeunes et surtout des jeunes qui n'ont pas redoublé pour X raisons. Ça pourrait être positif d'un certain point de vue, mais ça peut peut-être aussi se dire qu'ils arrivent avec des fragilités qu'ils ont accumulées aussi. Bon, ça, je ne vais pas vous refaire la démonstration ici. Donc tout ça crée effectivement des tensions. Et puis maintenant, donc on est arrivé avec le nouveau président, le nouveau gouvernement, le nouveau ministre, dans une autre phase qui était celle de la refondation de l'école. Et dans la refondation de l'école, il y a une priorité ministérielle qui est de valoriser l'enseignement professionnel. Donc on a développé plein d'ateliers de concertation. J'ai été donc rapporteur de l'atelier concernant l'enseignement professionnel, où tout le monde a un peu débattu de l'enseignement professionnel. Pour l'instant, dans le calendrier, vous savez que le ministre a choisi de privilégier le primaire. L'an prochain, donc cette année ça a déjà commencé, mais en tout cas l'an prochain, ça va être le collège qui va être un peu au centre de l'actualité. Et les lycées, ça viendra un petit peu après. Donc le lycée professionnel, pour l'instant, j'allais dire, on n'a pas encore vu grand-chose des répercussions de la refondation de l'école sur le lycée professionnel. On n'a pas encore vu d'avancées significatives, mais ça s'explique parce qu'il y a un calendrier ministériel qui était prévu, d'ailleurs qui est prévu par la loi, qui était de dire d'abord, préoccupons-nous du primaire, et ensuite, Donc on attendra un petit peu, mais ça devrait arriver, dès l'an prochain, les réflexions sur le lycée vont être sur la table, évidemment. Le bilan de la réforme de la voie pro, vous le connaissez, très très schématiquement. On sait qu'il y a un taux d'accès au baccalauréat qui est beaucoup plus grand qu'avant. Je rappelle qu'avant, un jeune qui sortait de collège avait 27% de chance d'accéder au baccalauréat en passant par un BEP. Un jeune qui rentrait en première année de BEP, on n'en retrouvait que 27% qui allaient au baccalauréat. Maintenant, on est à 63% des jeunes qui vont au baccalauréat. Donc des jeunes qui rentrent en sortie de collège, il y en a 63% qui vont arriver au baccalauréat. Donc on a une arrivée massive, effectivement, de bacheliers professionnels. On n'a plus l'écrémage du BEP, ce qui, effectivement, là encore, modifie peut-être les publics, évidemment, mais il n'y a plus cet écrémage qui était assez violent, quand même, puisque 75% des jeunes de BEP ne poursuivaient pas en bac. Donc c'était quand même quelque chose d'un peu... On a un affaiblissement du taux de réussite au bac, puisque globalement, on est revenu dans les chiffres qu'il y avait dans les taux de réussite avant l'introduction de l'épreuve de contrôle. Je rappelle qu'il y a eu l'introduction d'une épreuve de contrôle donc dans les baccalauréats professionnels qui a considérablement augmenté les taux de réussite, puisqu'on n'a qu'une épreuve de contrôle qui couvre l'ensemble des coefficients. Bref, je reviens pas là-dessus. Donc là, ça nous a permis effectivement de passer de 75% à 83-84%. On a gagné 7-8 points de taux de réussite au bac grâce à l'épreuve de contrôle, eh bien là, on est revenu avec effectivement le bac pro 3 ans à des taux antérieurs à l'épreuve de contrôle. Ces taux sont en train de frémir positivement. Alors, on a eu moins 6 points la première année. Là, on est plutôt à moins 2 points par rapport à avant. Donc, on est en train de récupérer tout doucement les taux de réussite qu'il y avait effectivement avant le bac pro 3 ans. Le point faible, c'est un taux de décrochage qui est toujours important. Et ça, ça inquiète effectivement majoritairement le ministre dès sa prise de fonction, puisqu'on avait à l'entrée de chaque cursus, que ça soit en première année de CAP ou en seconde, on était donc à 12,5%, 13 selon effectivement les spécialités. Hein. Là encore, je parle massivement pour le pro, mais vous savez bien que il y a 80 baccalauréats professionnels, il y a 200 CAP, il y a 90 BTS. Donc quand on parle de l'enseignement professionnel, on parle d'une diversité absolument incroyable. Donc il faut faire très attention sur ces chiffres globaux. Mais en tout cas, le décrochage reste quelque chose d'important qui a un peu baissé cette année, puisqu'on est plutôt à 11,7, 11,8. Donc c'est très très lent. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe effectivement en réduction de décrochage. Je rappelle que la France s'est engagée à essayer d'avoir un taux de 10% très rapidement, qui est un taux d'ailleurs donné au niveau européen. Bon, avec ces 12%, la France n'était pas dans le peloton de tête hein, des malheureux pays qui dans lesquels on décrochait le plus. Elle était plutôt dans une petite moyenne européenne. Mais il faut quand même continuer effectivement l'effort pour réduire le décrochage. La question qui préoccupe le ministre, mais qui nous préoccupe nous aussi, c'est maintenant le décrochage qui peut être reporté en BTS. Parce qu'effectivement, une des problématiques du bac pro 3 ans, vous le connaissez maintenant, c'est l'afflux de bacheliers professionnels, la demande qui s'exerce pour continuer en BTS, qui est une demande sociale. Et tout ça, effectivement, il faut essayer de la prendre en charge. Il faut essayer de contrôler tout ça pour ne pas que le BTS se transforme en parcours d'échec et qu'on ait un taux de décrochage très très fort, d'ailleurs qui est assez important, entre la première année et la deuxième année de BTS, qui peut se chiffrer à plus de 25% dans certaines formations, et ça c'est une moyenne, mais on peut même aller beaucoup plus haut sur certaines autres formations. Donc ça, ce sont des enjeux globaux. Et effectivement, le bac GA est venu dans ce contexte général, sur ces enjeux-là. Alors, institutionnel. Mais vous le savez aussi, on est dans une des plus grandes filières de l'enseignement professionnel. On était à 100 000 jeunes, maintenant on est plutôt à 85 000 jeunes qui sont engagés dans cette filière-là. L'autre grande filière, c'est la filière commerciale. Ce sont les deux grandes filières de l'enseignement professionnel. Et si j'y ajoute l'hôtellerie et puis les formations électriques, électroniques et environnement, ELEC, alors je ne sais plus comment c'est, les formations électriques, électroniques, eh bien on a à peu près 60% de l'ensemble des lycées professionnels, du secondaire professionnel, concentré sur quatre filières. Donc c'est un monde très concentré en termes de flux. Donc là, il se trouve qu'effectivement, les enjeux sont très très forts pour notre filière, puisque là, on s'attaquait à quelque chose de très très important, y compris en professeurs. Hein, on est à presque 6000 professeurs engagés dans la filière. D'où d'ailleurs le grand intérêt que peuvent manifester nos partenaires sur cette filière, parce que quand on agit ou quand on commente les rénovations sur le tertiaire administratif, eh bien, il y a une audition, effectivement, il y a un auditoire qui est extrêmement important, et public très important. C'était aussi quand même une des filières les plus fragilisées des diplômes anciens de 95. Il n'y avait pas eu de rénovation, donc depuis plus de 15 ans, 17 ans exactement. Donc ça commençait effectivement à être ancien. Fragilisé aussi, je l'ai dit, en termes de réduction de postes. Notre filière a cotisé, je veux dire, à la réduction des postes budgétaires, à la réduction de l'offre de formation de manière très très importante. Aux efforts de réduction nationaux qu'il y a eu. Et puis, on avait aussi d'autres problèmes plus techniques, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de rupture de la relation formation-emploi. Et on semble l'avoir oublié maintenant, quand j'entends certains professeurs, mais à l'époque, quand même, les professeurs disaient on a de plus en plus de mal pour trouver des stages de comptabilité ou des stages de secrétariat pur. Et c'était des vrais problèmes, en particulier pour la comptabilité. Et les professeurs de comptabilité en premier nous le disaient. Maintenant, ils semblent avoir oublié parce qu'ils disent « mais non, on trouvait des très bons stages de comptabilité », certains le disent en tout cas. Mais en tout cas, c'était une vraie réalité qui nous a été remontée à ce moment-là. Se poser la question effectivement de l'adaptation de nos baccalauréats, secrétariat et comptabilité à la demande et à l'insertion professionnelle. Alors, autre aspect qui était important, c'est que vous le savez, seul le BEP a été rénové dans le cursus 3 ans. Il y a eu le BEP MSA qui a été rénové et les baccalauréats étaient déconnectés du BEP. Les bacs professionnels comptabilité et secrétariat sont déconnectés du BEP, ce qui fait que, bah, que les professeurs, finalement, disent bah, on travaille un an et demi un BEP, puis on travaille un an et demi le baccalauréat. Donc un an et demi en baccalauréat, c'est quelque chose de lourd, etc. Bref, on a travaillé là-dessus. Là, l'idée, c'est effectivement de trouver une rénovation qui l'articule et qui encastre complètement le BEP dans le bac. Il ne s'agissait pas de poursuivre un BEP puis ensuite un bac, mais de travailler le bac et à l'intérieur de ce bac, de travailler le BEP, j'allais presque dire, de manière naturelle. Donc ça, c'était un enjeu aussi. Autre aspect qui caractérise notre filière, c'est qu'il n'y a pas de CAP. Il n'y a pas de CAP dans la filière administrative. Alors, vous savez que quand il n'y a pas de CAP, ça veut dire que quelque part, les élèves les plus fragiles qu'on retrouve en CAP, dans la filière administrative, on les retrouve tous en classe de seconde. Ce qui veut dire qu'en classe de seconde, effectivement, tous les profils sont là. Dans d'autres filières où il existe des CAP, en commerce par exemple, ou ailleurs, eh bien, il y a pas un écrémage, parce qu'il ne faut pas parler comme ça, mais en tout cas, les profils les plus fragiles passent par le CAP, pour éventuellement ensuite reprendre le bac, mais passent déjà par le CAP, ce qui fait que les secondes sont beaucoup moins occupées par des profils très hétérogènes et très fragiles. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ce qui caractérisait aussi la filière, alors secrétariat et puis comptabilité, c'est que la poursuite d'études était contrainte. On ne peut pas s'en sortir autrement qu'en poursuivant ses études dans ces filières-là. C'est pour ça que c'est la filière qui a le plus de bacheliers qui poursuivent en BTS, mais y compris dans l'ancienne possibilité. Et puis je passe là-dessus, mais vous le savez bien, c'est une filière de régulation. Ça veut dire que des jeunes gens ou des jeunes filles qui voulaient aller soit en prévention sécurité, soit dans les filières sanitaires, sociales et autres, et qui ne sont pas prises, qui n'ont pas ces vœux-là, viennent naturellement dans la filière administrative. Donc on est une filière de régulation. Alors, donc on voit bien ici que les enjeux institutionnels étaient très lourds derrière cette rénovation, parce qu'il fallait tenir compte de ça pour essayer d'apporter une réponse à tout ça. Il y a des enjeux socio-économiques qui sont bien identifiés. C'est une filière où les CSP moins sont très présentes. Donc les milieux effectivement sociaux défavorisés sont très présents dans la filière administrative, avec une très faible mobilité aussi. Et c'est pour ça que l'on a beaucoup de sections administratives complètement disséminées sur tout le territoire, partout. Et il y en a même dans des petits bourgs de 7-8 000 habitants. On retrouvait des demi-sections, même si tout ça a été un peu concentré avec l'évolution des cartes de formation. Mais c'était un monde complètement éclaté en termes de division. Il y en avait partout. Pourquoi ? Parce que c'était aussi une filière de régulation avec des populations qui étaient très peu mobiles. Donc ça, c'est aussi des enjeux socio-économiques qui étaient importants. On avait un problème d'emploi. On a un problème d'emploi aussi au niveau 4. Alors de manière générale dans toutes les filières, mais particulièrement dans la filière administrative, où pour le coup nos BTS sont des diplômes reconnus, performants, et qui la plupart du temps constituent un premier pas dans l'emploi administratif. Soit un BTS comptabilité du côté des experts comptables, ou un BTS assistant manager ou assistant gestion PME-PMI, finalement on avait installé l'idée que le premier niveau d'emploi dans la filière administrative, c'était le BTS. Ce qui a été démenti, effectivement, par, de toute manière, le projet. Bon. Enjeux éducatifs, là, c'est les enjeux éducatifs qui existaient dans les établissements et dans les classes. On avait, il faut le reconnaître, une forme d'atonie pédagogique. C'est pas dans ces sections-là qu'on avait le plus grand dynamisme, la plus grande innovation pédagogique. Il faut bien le reconnaître. Ça venait pas forcément des professeurs, mais ça venait simplement aussi d'un diplôme de 15 ans de pratique. Quand on renouvelle une pratique, effectivement, il y a une forme d'enquistement, de répétition des choses, etc., qui se font. Donc, c'était des sections qui étaient plutôt mal reconnues dans les établissements. Ça, c'est aussi ce qui nous remontait en tant que tel. Et là, je vois bien les autres sections qu'il y avait, que ce soit commerce ou accueil et autres, qui, eux, rayonnent, qui, eux, sont porteuses de projets et autres. Ce n'était pas le cas pour nos filières administratives, enfin, de manière très globale, hein, attention, hein, c'est pas... Et puis, il y avait un point quand même pratique qui nous semblait quand même un peu inquiétant, c'est que c'est une filière qui était restée hermétique aux évolutions technologiques. Il y avait une forme d'étanchéité, si vous voulez, entre la formation qu'on avait et puis tout ce qui se passait en termes d'évolution technologique autour de ça dans l'administratif. Alors effectivement, tous les systèmes intégrés de gestion, tous ces systèmes de gestion documentaire très très sophistiqués qui existent, qui commencent à se développer, etc., eh bien, on ne les voyait pas effectivement dans nos formations. Ou très globalement, on restait dans un univers bureautique, qui existe encore, bien évidemment, y compris dans la pratique, mais qui est plutôt figé dans sa structure. Hein. Donc ça, c'était aussi une vraie question, en tout cas, qui se posait là-dessus. Une chose qui est intéressante sur cette filière qui existait et qu'il faut pérenniser, c'est que par contre, ce sont des filières qui sont assez ouvertes à l'international. Et qu'on s'est rendu compte à l'intérieur des établissements, quand on a eu des expériences, eh bien, que les projets d'échange avec l'étranger, entre autres, eh bien, se faisaient souvent, les expériences de mobilité comme ça à l'international, étaient souvent portées par des professeurs de secrétariat ou des professeurs de comptabilité. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres filières. La filière hôtellerie, par excellence, c'est elle qui est très porteuse dessus. Mais là, il y avait quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Donc il faut essayer effectivement de garder. Donc derrière tout ça, l'enjeu qu'il y avait, c'était effectivement de relancer l'attractivité de cette filière. Ça, c'est l'objectif prioritaire. Et puis d'essayer d'insuffler une dynamique pédagogique. D'essayer effectivement, et ça ce sont des enjeux très très forts que l'on avait à relever, que l'on a à relever, qui était de dire, de faire le lien d'ailleurs entre les deux. De dire que l'attractivité de la filière, donc auprès des élèves, j'allais dire dans notre jargon à nous, augmenter les vœux 1, ce qui est d'ailleurs une ineptie quand on regarde un peu les choses, mais bon, peu importe. Relancer l'attractivité de la filière, ça peut passer par un dynamisme pédagogique. Mais ce dynamisme pédagogique, ce n'est pas de l'agitation pédagogique, il faut qu'il soit en lien avec les besoins de la profession. Donc il faut qu'on fasse ce lien-là entre attractivité, pédagogie et l'emploi, et l'évolution des pratiques professionnelles de référence. Et donc ça, c'était effectivement notre enjeu. Alors, ces enjeux pédagogiques, oui, on sait que d'abord le lycée professionnel, l'enseignement professionnel est une terre d'innovation, de manière très générale. On le sait au sein du système éducatif que toutes les innovations, elles démarrent dans l'enseignement professionnel. Même si d'ailleurs elles ne sont pas toutes traduites ou elles ne sont pas toutes reconnues en termes d'innovation. Quand vous regardez par exemple les projets d'innovation qui sont gérés au niveau des DRIE, ben, on voit bien que le lycée pro existe assez peu dans les projets d'innovation. Mais parce que c'est presque une pratique, j'allais dire, intégrée, comme ça. Donc là, la question qui se posait effectivement ici, c'était quel type d'innovation allait traverser notre réforme. Moi, je pense que ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, ce n'est pas de l'innovation pour l'innovation. Ça n'a aucun sens de se dire on va faire une espèce de vitrine innovante, des espaces professionnels très intéressants pour relancer les choses, bref, faire de l'innovation pour communiquer simplement. Non, l'innovation, les innovations qui ont été portées dans la réforme GA, elles sont liées à des vraies questions de fond sur l'enseignement professionnel. Elles sont liées à, première réflexion, comment approcher la compétence. Ça, c'est une question fondamentale. On a fait le constat, nous, que jusque-là, l'approche par compétence était plutôt insatisfaisante, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs dans le pro, parce que dans le pro, on dit oui, mais depuis 20 ans, on travaille avec les compétences, mais quand on observe l'ensemble des référentiels, on ouvre des yeux grands comme ça, et les interprétations de la compétence sont majestueusement diverses. Donc, il fallait se poser et se reposer cette question de la compétence. Donc ça, ça a été notre première préoccupation. Se reposer la question aussi de l'alternance, qui est une caractéristique, qui est la caractéristique du projet pédagogique porté par l'enseignement professionnel, c'est l'alternance. C'est ce qui différencie l'enseignement pro de l'enseignement général, de l'enseignement technologique. C'est qu'on a choisi un modèle d'acquisition des savoirs qui est celui de l'alternance. Alors, je ne parle pas de l'alternance en termes de statut, mais en termes de modèle d'acquisition des savoirs. C'est-à-dire, pour faire très simplement, que les savoirs sont mis en tension dans des lieux différents. Pour exprimer et définir très rapidement l'alternance, mais on accepte dans l'enseignement professionnel que les savoirs soient effectivement mis en tension dans des lieux d'apprentissage différents. Et donc, il fallait revisiter aussi l'alternance. parce que l'alternance telle qu'on l'a connue n'était plus un modèle viable, qui reposait très grossièrement sur en établissement on fait du théorique, en PFMP on fait du pratique, cette espèce de distinction théorie-pratique, ou même savoir fondamentaux, savoir appliqué. J'enseigne des choses, vous verrez en PFMP comment vous les appliquez. Donc ces espèces de frontières-là qui ne valent plus maintenant, ça ne marche plus comme ça. L'alternance est complètement revisitée. En ce moment, on en parle beaucoup. J'étais hier, ou je ne sais plus quand, avant-hier, à Poitiers, pour les ESP en particulier, où la conférence essentielle, c'était sur l'alternance. Qu'est-ce que c'est que se professionnaliser dans un contexte d'alternance ? Il y a en face des très bons ouvrages qui en parlent aussi très très bien. Mais donc ça, c'est une vraie question. Donc la compétence et l'alternance sont deux questions fondamentales qu'on s'est posées pour cette rénovation. Elles ont conduit à des formes d'innovation, en tout cas ce qui peut être approché comme des innovations. Mais n'oubliez pas quand même que tout ce qui peut être dit ou fait ou écrit ou développé dans G1 porte sur ces deux questions-là, compétence et alternance. Enjeu certificatif. Évidemment, l'enjeu certificatif majeur qui était à l'époque, quand on a fait le projet, c'était le CCF. CCF qui était unanimement décrié, puisque finalement, globalement, et là, dont acte pour l'inspection générale, quand on a établi nos référentiels et qu'on a écrit des épreuves, ben, on ne sait faire qu'une chose, nous, c'est écrire des épreuves ponctuelles. Et donc, on a traduit en CCF des épreuves ponctuelles. Donc, on a dit, finalement, on va faire de l'épreuve ponctuelle en établissement. Donc on va dire aux établissements qu'il faut convoquer des commissions, il faut convoquer des professionnels, il faut organiser des jurys, il faut faire des tas de choses comme ça, ce qui a donné une surcharge organisationnelle dans les établissements qui, pour certains enseignants, pour certains chefs d'établissement, est proprement insupportable. Parce que, en termes organisationnels, mobiliser des équipes pour organiser des oraux, des plannings, plus le problème de l'absentéisme des jeunes à ces situations d'évaluation ponctuelles, etc., on est arrivé effectivement à une limite dans l'organisation du CCF tel qu'il a été perçu par nous, mais par d'autres aussi, qui n'est plus tenable. Donc nous, on a démarré ce projet avec cette idée-là, de se dire qu'est-ce que c'est qu'une certification liée à la formation ? Qu'est-ce que c'est qu'un véritable contrôle en cours de formation ? En cours de formation. Donc, quelle est la certification la plus pertinente qui peut se fondre le plus possible dans la formation? Ça aussi, c'est une question fondamentale qui a guidé un certain nombre de choix que l'on a fait derrière. Alors, je vais très vite sur le projet global, parce que vous le connaissez peut-être, mais sur le diplôme, on a acté, après avoir écouté nos professionnels, qu'il y avait un niveau 4 pertinent d'emploi. On nous a bien dit que non... Ils ont regardé, les professionnels, les référentiels de BTS là-dessus. Donc c'est un peu surdimensionné par rapport à nos attentes de premier emploi dans l'administratif. C'est surdimensionné. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose au niveau 4. Alors, ils nous ont dit deux attentes. Hein. Alors, eux expriment polyvalence. Et en même temps, il fallait des gens polyvalents, mais qui puissent s'adapter à des contextes très différents. Parce que être gestionnaire administratif dans une usine de traitement de déchets, être gestionnaire administratif dans une grande association sportive, être gestionnaire administratif dans un garage, être gestionnaire administratif dans une location de voiture, dans une entreprise de location de voiture, il faut connaître le contexte dans lequel on est pour être un gestionnaire administratif. Donc il fallait à la fois quelqu'un qui fasse beaucoup de choses, forme de polyvalence, mais en même temps qui puisse se spécialiser dans des contextes particuliers. Une espèce de force comme ça, un petit peu difficile à gérer. Alors, on a parlé de multivalence parce que, vous le savez, quand on a défini les métiers, tous les métiers polyvalents sont des métiers qui sont en affaiblissement en termes de reconnaissance sociale. C'est une tradition, enfin une vision en tout cas qu'on a des métiers. À chaque fois que l'on essaie de parler d'un métier polyvalent ou de transversalité, eh bien, ce sont des métiers qui sont peu reconnus socialement parlant. Par contre, si vous parlez d'un métier extrêmement ciblé, allez, horloger pour les terres, puisque c'est notre Rolls-Royce dans l'enseignement professionnel, horloger puis gouvernante. Hein. Il y a deux métiers, deux filières. Gouvernante, vous avez 12 gouvernantes qui sont formées en France, 12, et d'ailleurs au monde, puisqu'on est la seule nation à avoir une école de gouvernante. Il y en a une autre aux États-Unis qui essaie de se construire, tout ça. Donc là, on est dans l'élite de l'élite. Horloger aussi. L'horlogerie, effectivement, sur les formations d'horlogerie, c'est des Rolls-Royce. Mais on voit bien que sur des métiers extrêmement spécialisés, très très identifiés, ce sont des métiers très reconnus. Et plus on va vers la polyvalence, et moins c'est reconnu. Là, on parle de multivalence parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui sait un peu tout faire de tout sans très bien le faire. Ce que peut traduire la polyvalence. La multivalence, c'est qu'il faut qu'il soit bon partout. Ça change quand même la donne. Ça veut dire qu'un gestionnaire administratif, quand il fait une déclaration de TVA qui doit être envoyée au service, eh bien, il faut que cette déclaration de TVA soit zéro défaut. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui fait à peu près une déclaration de TVA et puis qui passe après une déclaration de congé payé et puis qui règle vite fait un petit litige avec un client, etc. Parce que le compte, il l'a regardé très rapidement. Il ne s'agit pas de faire ça. C'est qu'il faut qu'il soit très très bon dans chacune de ses spécificités. Et donc ça, c'est la multivalence, effectivement, cette multi-expertise là-dessus. Et ça, ça pose quand même un problème, effectivement, quand il s'agit de lier ça à des formations niveau 4, évidemment. Alors bien sûr, les aspirations des élèves, des familles, l'insertion, un minimum d'insertion sur des emplois très ciblés, fallait les définir, ces emplois. Faut bien sûr qu'on puisse faire réussir des jeunes au baccalauréat. Il n'y a quand même pas de honte à essayer de dire, bah oui, nous on va essayer d'avoir un taux de réussite qui soit important au baccalauréat, et on va essayer d'évaluer les élèves dans ce qu'ils ont de mieux, dans leurs côtés les plus bénéfiques, les plus positifs, pour qu'ils puissent détenir le baccalauréat. On ne sait pas pourquoi en France, et là on est une forme de singularité européenne, de dire le baccalauréat on ne le donne pas à tout le monde, etc. Ce genre de discours est typiquement français, parce qu'on sacralise le diplôme, parce que etc., etc. Mais quand même, si on prend n'importe quel élève et qu'on l'évalue dans ce qu'il a de mieux, de plus positif par rapport à un référentiel qui est construit là-dessus, il y a quand même des marges de manœuvre pour avoir effectivement une réussite au baccalauréat qui soit accessible au plus grand nombre. Et puis bien sûr, le troisième enjeu, c'était la poursuite d'études et poursuite de professionnalisation. J'y reviens pas, ça faisait partie effectivement de tout ça. Bon, on est arrivé à aboutir finalement à une seule spécialité. On a longtemps hésité, On était parti sur deux baccalauréats dans notre tête, évidemment. On se dit, on a deux baccalauréats à faire, on va essayer de travailler sur deux baccalauréats à la fin. Mais quand on a écouté effectivement l'ensemble de ces professionnels, il est apparu très très nettement que dire on maintient quelque chose sur de la comptabilité exprimée comme ça, c'était envoyer les jeunes dans le mur. Quand vous entendez sans arrêt les experts comptables, les comptables dire mais non, le niveau d'entrée sur la technique comptable, c'est du BTS. Par contre, on a besoin au niveau 4 de jeunes qui sachent manipuler des données de gestion, sans être effectivement des techniciens de la comptabilité. Donc ça, ça effectivement, ça a beaucoup travaillé effectivement notre réflexion là-dessus. Et puis, il y avait d'autres évolutions qui feraient que finalement, on est allé à un seul baccalauréat, avec les conséquences qu'il y a pu y avoir là-dessus. Et puis, bien sûr, il fallait que notre diplôme reste ouvert aux différents statuts. Moi, j'y tiens. Je crois qu'il faut que les apprentis, il faut que la formation initiale, il faut que aussi les adultes, la formation continue, puissent être formés à notre baccalauréat. Donc peut-être que l'approche un peu modulaire possible de ce baccalauréat, c'est peut-être une bonne chose. Donc si voilà, si une formation continue veut s'établir sur le pôle 2, mettons, du référentiel, eh bien tant mieux. Et si on veut faire des modules là-dedans, c'est tant mieux. L'ancrage avec les diplômes de niveau 3, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître en ce moment. C'était moins évident à l'époque. On se disait, il y a le BTS PME PMI qui est là. Pardon, AG PME qui est là. Bon, on le voit bien, l'espèce effectivement de multivalence qui était ancrée là-dessus. On sait qu'en ce moment, on est en train de rénover le BTS comptabilité, gestion. Et mon collègue vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, les liens entre le BTS CGO qui va être rénové et le BAC GA sont évidents. Donc il y a des connexions extrêmement fortes entre la forme d'approche, effectivement, de ces diplômes. Donc cette connexion-là, Jean-Michel Paguet, pour ne pas le nommer, a déjà établi ce lien. Il sait de quoi il parle là-dessus. Il a regardé notre référentiel. Il regarde, lui, les travaux qu'il mène là-dessus. Et l'articulation, elle est très, très simple. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Et puis l'attractivité sociale, il faut qu'il y ait la VAE, etc., etc. Bon. Je vais plus loin là-dessus. Donc on a défini un métier. Alors, quel est l'intérêt, effectivement, pour la professionnalité des enseignants? Ce qui est intéressant, c'est que, bon, on est dans la gestion administrative, mais c'est où est-ce qu'ils interviennent, ces gestionnaires administratifs? Et effectivement, depuis que moi, j'ai fait ce projet, et en même temps qu'on faisait ce projet, il ne se passait pas une journée sans qu'on rencontre 3-4 gestionnaires administratifs dans notre journée. partout où on va, faites-en l'expérience vous, quand vous sortirez d'ici, eh bien, il n'est pas rare que vous rencontriez 3-4 gestionnaires administratifs avec qui vous avez affaire. Donc c'est un métier qui est partout. On se demandait où il était, mais en fait c'est parce qu'il était partout. Donc, allez louer une voiture, emmenez votre enfant à inscription dans un club de sport et autres, eh bien vous êtes en face de vous, vous avez quelqu'un effectivement qui fait de la gestion administrative pour ouvrir votre dossier, pour prendre vos inscriptions, pour etc., etc., etc. Donc, entreprises de petite et moyenne taille, c'est ciblé effectivement sur les petites entreprises, y compris d'artisanat. Je crois que ça, c'est quelque chose de très très fort, parce que l'artisanat, c'est souvent un artisan qui a un très très bon savoir-faire, mais qui n'y connaît rien du tout, au niveau gestion, au niveau relation effectivement avec les entités. Il a besoin effectivement de quelqu'un là-dessus. Alors c'est souvent son épouse, hélas, parce que c'est très genré tout ça, qui fait tout. Mais en même temps, il y a d'autres artisans qui ont quelqu'un qui est vraiment l'interface sur cette dimension, effectivement, gestion administrative. Et puis, il y a les collectivités territoriales. Vous en rencontrez beaucoup aussi dans les collectivités territoriales, dans les administrations et dans les associations. Intérêt pour la professionnalité des enseignants, c'est qu'effectivement, on n'a plus aucune limite dans les lieux d'accueil de PFMP. Il n'y a plus à se poser la question, est-ce que le lieu d'accueil correspond ou pas à mon référentiel, question que se posent la plupart des autres formations professionnelles, hein, y compris industrielles. C'est la principale préoccupation souvent des professeurs, des tuteurs et autres. Nous, pratiquement, il n'y a pas, je ne vois pas d'entité dans lesquelles on ne peut pas avoir une PFMP, effectivement, de gestion administration. Donc ça, ça a quand même été quelque chose qui a été important, me semble-t-il, même s'ils n'en parlent pas trop, les professeurs, à l'heure actuelle, mais quand même, on a ouvert, effectivement, les champs importants. Bon, ce qui était intéressant dans ce métier, on a défini les quelques traits de ce métier, c'est quand même la personne qui sécurise tout dans l'entreprise. Elle sécurise les documents, elle sécurise les opérations, les processus et même les projets qui sont développés. Le gestionnaire administratif est celui qui a une fonction de sécurité, d'assurance tout risque à tout prix. Deuxième chose, il faut quelqu'un de très opérationnel. C'est pas quelqu'un qui peut remettre au mois d'après ce qui peut être donné. C'est dans l'immédiat, il faut traiter très très vite, souvent en multi-fenêtre. C'est-à-dire qu'on se met sur un travail et tout de suite on est perturbé par une autre demande. Donc ça, ça caractérise vraiment le métier. Rôle d'assistant, de référent de support. Et la dernière chose qui avait été donnée par les professionnels, c'est la maîtrise importante de l'orthographe et de la syntaxe. Ça n'est pas un caprice pédagogique. On n'a pas fait des ateliers rédactionnels pour faire beau. On n'a pas fait des ateliers rédactionnels pour se dire, allez, il faut résoudre le problème orthographique de nos enfants dans le système éducatif. On l'a fait parce que le métier nous l'imposait de le faire. On nous a dit que le gestionnaire administratif est le garant de tous les documents qui sortent de l'entité. Et effectivement, toute insuffisance en termes d'orthographe, de syntaxe, est directement pénalisant pour l'entité dans laquelle il travaille. D'où, et on s'excuse, cette ambition qu'on a eue de se dire, ben, on va mettre ça sur la table. Il faut qu'on traite ça. Il ne faut pas qu'on renvoie ça à avant. À dire, bah oui, ils arrivent, on sait très bien qu'ils écrivent en phonétique, etc., etc. Mais il faut le traiter dans le cadre de la professionnalisation parce que dans leur métier, ça sera de toute manière indispensable. Donc, sur les ateliers rédactionnels, mais vous y reviendrez après, c'est avant tout une nécessité de métier qui nous a conduit à installer ces ateliers rédactionnels. Bon, appellation du diplôme, on a deux évolutions fortes. Comment passer de la comptabilité à la gestion? La gestion, c'est la manipulation de données de gestion, de données quantitatives, au service de décisions, au service d'exigences administratives et autres, mais il faut des gens qui soient capables de manipuler des données de gestion. Plus que de connaître des comptes à 5 chiffres, il faut des gens qui soient capables de vérifier qu'un budget, le total du budget, est exact. C'est ça qui est important dans la partie gestion. Et donc, il ne fallait pas se tromper de cible, là. De point de vue de la technique comptable ou de la gestion. Donc il faut passer de la comptabilité à la gestion. Et c'est vrai que ce qui nous est dit, ce qui nous a été dit, et des professionnels nous l'ont dit, moi je suis un très bon gestionnaire, mais je ne connais pas la technique comptable. Par contre, tous les documents de gestion que j'ai entre les mains, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucune faute, aucune erreur de vraisemblance, de comptabilité, de totalisation et autres. Il n'y en a aucune. Et c'est ça qu'on attend, assurance tout risque sur les données de gestion. Du secrétariat à l'administratif, parce que, évidemment, l'image et la fonction propre de la secrétaire existent toujours, mais elle s'est considérablement enrichie et étendue. Maintenant, la plupart des administratifs sont pris dans des circuits d'information, dans des processus d'information. Ils alimentent, ils n'ont pas simplement leurs petits fichiers en bureautique à eux qu'ils manipulent, etc. On leur demande des données qu'ils saisissent, qu'ils mettent en forme, des comptes rendus qui sont envoyés à d'autres services de l'entreprise et autres. Donc il y a une circulation documentaire qui s'est considérablement complexifiée et les informations sont complexifiées. Donc on passe effectivement de l'administratif au sens où on a une place complète effectivement dans l'ensemble du système. Pour le référentiel, plusieurs choix importants. D'abord, il faut qu'il soit lisible par tous. Un référentiel, ce n'est pas un programme. Un référentiel professionnel, c'est un document, je dirais, social, socialement partagé. Ce n'est pas un document simplement interne à l'éduc, entre nous. Vous avez des adultes, vous avez des gens qui veulent faire de la VAE, vous avez des entreprises qui s'emparent de nos référentiels, qui les téléchargent, qui regardent ce qu'il y a dedans. Donc c'est un objet vraiment social et partagé. Mais pour que ça soit le cas, il faut qu'il soit lisible. Or, vous connaissez peut-être la structure des référentiels. On a deux parties. Il y a une première partie qui décrit le métier. Là, ça va. Tout le monde, on lit à peu près, et tout le monde voit à peu près le RAP, hein, comme on dit, le référentiel d'activité professionnelle. Tout le monde voit à peu près le métier. Ça, c'est partagé. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'après, c'est du charabia de l'éduc. C'est-à-dire pour passer du métier aux épreuves, avec des tableaux de croisement de compétences dans tous les sens, des tas de choses comme ça qui sont décrites un peu dans tous les sens, là, pour le coup, que ça soit tuteur, professionnel et autres, ils disent, nous, on n'y connaît plus rien, là. On ne s'y retrouve pas là-dessus. Ce qui fait que la plupart du temps, ben, les professeurs, quand ils envoient des élèves en PFMP, c'est eux-mêmes qui refont des documents pour que les missions, elles, soient claires. Autrement, les tuteurs, ils disent, ben, moi, si vous mettez vos tableaux de compétences, qu'est-ce que je lui donne à faire à votre jeune? C'est ça qu'ils nous disent. Donc, il faut une exigence de lisibilité. Une exigence d'objectivité aussi. Et ce qui est écrit dans le référentiel doit être objectivé par le métier, parce que l'on nous a dit sur le métier. C'est pas dire, tiens, j'ai envie de mettre du projet, donc on va mettre un peu de projet, puis on va faire de l'accompagnement administratif de projet. Non, c'est parce que quelqu'un nous a dit, ben, nous, il y a une démarche qualité qui s'est mise dans l'entreprise, c'est moi qui ai accompagné administrativement ce projet. Il y en a qui nous ont dit, il y a des projets de porte ouverte, heureusement qu'ils peuvent compter sur moi, pour organiser le projet porte ouverte des commerciaux. C'est parce qu'on nous a dit ça qu'effectivement, il y a un pôle qui s'appelle pôle 4, accompagnement des projets, accompagnement administratif des projets. Donc, c'est objectivé par les réalités professionnelles. Et il faut bien avoir conscience de ça, parce que pour le coup, en termes de professionnalité d'enseignant, je ne suis pas sûr que les enseignants, là où ils sont à ce moment-là, se disent toujours, mais comment s'est construit ce référentiel? Où est le métier dans ce référentiel? J'en suis pas encore certain de ça. Double ancrage de ce référentiel. Je dirais qu'il y a deux ancrages. L'ancrage métier, je viens d'en parler. Et puis l'ancrage, alors scientifique, on va dire que on a essayé dans notre projet de mettre en œuvre, de mettre en musique tout ce que l'on connaît modestement des apports en termes de recherche scientifique sur l'analyse du travail. Le fond, le substrat des choix qui ont été faits dans cette réforme, c'est effectivement tout ce que l'on peut lire sur l'analyse de travail, sur la clinique de l'activité, sur la didactique professionnelle et autres. Il suffit que vous plongiez un petit peu dans les documents, là aussi il y en a des très bons en face, dans la librairie en face, pour voir que finalement, en lisant ça, vous dites, mais oui, mais c'est ce qu'ils ont voulu mettre en œuvre effectivement en GA. Donc on est fondé, et ça moi c'est quelque chose qui me sidérait quand je suis arrivé dans l'enseignement professionnel, c'est de me dire, mais il y a quand même des chercheurs qui travaillent, allez, depuis les années 70 pour faire court, sur, par exemple, l'objet de la compétence, sur l'objet de la professionnalisation, sur l'objet de l'acquisition, effectivement, de parcours de professionnalisation et d'ingénierie, etc., de formation. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, et tout ça n'a jamais été investi dans l'éducation nationale, y compris dans l'enseignement professionnel. On ne s'en est jamais servi. On est d'accord ? C'est quelque chose, mais d'hallucinant quand même. Hein. Donc effectivement, à partir du moment où vous faites ce constat-là, eh bien vous allez rencontrer ces chercheurs, vous lisez, vous travaillez avec eux, vous travaillez le projet aussi avec eux, et puis ben, vous vous dites, voilà une forme de projet de réforme, de rénovation, de diplôme, qui porte tous les intérêts et tous les apports effectivement de la recherche scientifique. En particulier, un exemple simple, qui est la compétence, qui était ma question première. Quand vous entendez tous les chercheurs qui vous disent la compétence, mais il n'y a rien de plus difficile que d'approcher la compétence, de traiter la compétence, et qui, enfin, quelque part, ils étaient sidérés avec quelle légèreté, nous, à l'Éducation nationale, depuis 20 ans, allez, on écrit de la compétence par-ci, on écrit de la compétence par-là, et puis on l'évalue à l'oral, et puis on fait des tas de choses comme ça. Alors que pour eux, c'est quelque chose de très, très complexe. Très complexe. On verra comment on a pu lever, effectivement, cette ambiguïté. Réconcilier la formation et la certification, on en a déjà parlé. Il faut connecter ces deux choses-là. Si on ne les connecte pas, eh bien, je pense que ça, en termes de professionnalité, c'est un vrai enjeu en ce moment. On voit des enseignants qui sont tout de suite, quand il y a une rénovation, qui se précipitent vers les épreuves. Quelles épreuves? Quand est-ce qu'on a les grilles? Quand est-ce qu'on a les sujets zéro? Ça veut dire qu'en France, on a une espèce de fixation, un tropisme qui va sur la certification et sur le diplôme. Ça se comprend culturellement, les diplômes, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Bon. Mais la formation, effectivement, elle passe souvent au second rang. Et ça pose problème parce que même quand on veut avoir un discours de formation, eh bien, nos professeurs, certains en tout cas, l'introduisent, le traduisent tout de suite en certification. Donc finalement, nos jeunes en formation, ils ne font rien de gratuit. Dès qu'ils lèvent un bras, on dit « Ah, comment je peux t'évaluer pour l'épreuve là-dessus » Enfin, je schématise, excusez-moi. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Or, nous sommes avant tout des enseignants, des formateurs professionnels. Et effectivement, accessoirement, on peut certifier, mais c'est un processus qui devrait venir après. Et ça, c'est une vraie question en termes de professionnalité d'enseignant, de revenir à notre métier d'enseignant, de transmettre et de faire qu'un jeune, effectivement, acquiert de la professionnalité, des savoirs, des connaissances. L'alternance pédagogique à réinventer, j'en ai parlé. Il ne s'agit pas d'avoir des lieux distincts, séparés et étanches. La vraie question de l'alternance pédagogique, c'est comment réinvestir les apports, les acquis d'un lieu dans l'autre. C'est le lien permanent qui doit se faire entre ces lieux différents d'apprentissage. Donc, comment réinvestir en PFMP ce que l'on apprend en établissement ou en CFA? Et comment ce qui a été appris en PFMP peut être réinvesti par les enseignants dans la formation? C'est ça l'alternance pédagogique, c'est créer cette dynamique permanente entre des lieux différents d'apprentissage. J'allais presque rajouter un troisième lieu qui peut être porté par le BACGEA, qui est l'éducation informelle. C'est-à-dire les autres lieux qui ne sont ni de la PFMP ni de l'établissement, mais qui sont des expériences informelles de jeunes dans les domaines administratifs. Qu'est-ce que l'on fait de ces expériences-là, de ces situations-là? Et donc ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut inviter toutes ces expériences dans nos formations? Et puis l'autre question qui est une question très très forte en ce moment dans le système éducatif, c'est le paradigme des parcours. Je rappelle que pour l'instant, notre système éducatif n'est pas préparé à intégrer ce paradigme des parcours des élèves. Parcours des élèves, ça veut dire qu'on prend un élève non pas dans son niveau ou dans la séquence formation qu'on a en face de lui, seconde ou première ou terminale, ou troisième ou quatrième ou cinquième, mais c'est de le prendre dans une continuité, dans son histoire. Si vous interrogez un collègue qui est en seconde pro, vous lui dites « qu'est-ce que tu connais de l'histoire de cet élève au collège ?» On ne connaît rien. En troisième, qu'est-ce que vous connaissez même de l'histoire de cet élève en quatrième ? Ben, les professeurs vous disent ben « non, nous ne connaissons rien ». Il y a comme dans notre système une procédure d'effacement à chaque étape qui est traversée par l'élève. On n'a pas d'élève de manière dans la continuité de l'élève. On n'a pas de dispositif qui nous permet de prendre un élève dans sa continuité, dans son histoire. Et ça, c'est une vraie question, en particulier même sur un cursus 3 ans, et on sait que les publics vont changer, qu'il y a des passerelles, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on connaît des élèves qui arrivent dans la classe? Et qu'est-ce que vont connaître nos collègues qui vont les accueillir peut-être ailleurs, y compris en BTS? Donc on n'a pas d'outils pour l'instant. On n'est pas équipé pour faire ça. Et on n'a pas de traces, effectivement, de ces élèves. Alors il ne s'agit pas de faire du Big Brother, mais au moins quand même d'avoir un minimum de références éducatives, pédagogiques, en termes d'acquis. Et en BTS, c'est une vraie question en BTS. Parce que quand on va accueillir des jeunes bacheliers professionnels ou d'autres, mais ensuite, quel type de bachelier professionnel, qu'est-ce qu'il faisait en terminale et autres, eh bien, tout ça est complètement étanche. Donc, le parcours des élèves est une vraie question qui interroge aussi la professionnalité des enseignants, évidemment. Alors, pour les référentiels, effectivement, comment écrire un référentiel? Ça interroge tout ça. Quel rôle on a dans la certification? Quelle pratique d'évaluation? Comment traiter les compétences et les comportements? Ça aussi, c'est une vraie question dans l'enseignement professionnel. On a souvent des diplômes qui sont saturés de comportements. Quand vous interrogez même un entrepreneur ou un employeur, si on leur faisait faire des référentiels, ils vous listeraient des comportements attendus. « Oh, je veux quelqu'un de curieux, de disponible, d'adaptable, de poli, enfin bon, etc., etc. » On est sur du comportemental en permanence. Il faut pouvoir traiter le comportemental. Ça, c'est une vraie question. Quel est le statut donné au savoir? Comment garder les traces des activités des élèves? Et ça, c'est l'idée de continuité. Il y a des élèves qui font des choses sans arrêt et on perd la trace. Ça s'évapore. Comment garder cette trace? Si on ne garde pas la trace, on ne peut rien faire derrière, on ne peut pas même imaginer les envisager dans une continuité. Et puis, quel statut donner au PFMP, mais aux périodes de formation en milieu professionnel, mais ça correspond effectivement à l'alternance. Bon, 4 pôles ont été identifiés, mais je vais très vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ça. C'est en lisant le référentiel, les pôles d'activité, vous lisez les épreuves. Elles sont connectées. Vous avez vu qu'il y a eu 4 pôles d'activité dans le métier. Eh bien, il y a des épreuves qui correspondent à ces pôles d'activité. On ne fabrique pas une épreuve qui mélange des activités entre elles. Donc, un professionnel, quand il lit les épreuves qui sont demandées et les pôles d'activité, il fait le lien immédiatement. Et il sait que s'il fait faire, de traitement de litige avec des clients, aux jeunes qui est chez lui, eh bien, il sait que, immédiatement, le lien avec l'épreuve qui est donnée en face, il est immédiat. On sait où on est dans l'épreuve. Donc ça, c'était quand même quelque chose qu'il fallait installer. C'est pas le cas de tous les référentiels. C'est pas le cas de tous les référentiels. Et enfin, il fallait faire un choix, mais presque fondamental, en tout cas ce qui nous concerne. Il fallait franchir le pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un référentiel de compétences, on est dans un référentiel de situation. Alors, je vais pas revenir d'un point de vue théorique, mais la notion de situation est une notion avant tout théorique. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un ancrage dans la recherche, eh bien, c'est un concept effectivement de recherche fort. Je ne vais pas revenir sur la cognition située, enfin tout ça. Mais quand même, ce que nous disent, en tout cas ce que nous ont dit certains chercheurs, c'est que la compétence, c'est trop difficile d'aborder directement la compétence. C'est trop difficile. Par contre, on peut l'encercler. On peut regarder dans quelles conditions elle émerge. Dans quelle situation professionnelle peuvent émerger les compétences. Et c'est beaucoup plus simple de travailler sur la situation professionnelle, c'est-à-dire ce qui encercle la compétence, que de travailler directement sur la compétence. Et ce que l'on a voulu écrire dans ce référentiel, c'est ça. On va décrire ce métier en situation professionnelle. Les compétences, elles sont au cœur de ces situations, mais ce n'est pas notre objectif premier. C'est pas par ça que l'on va commencer. Elles existent, les compétences, effectivement. Mais ce qui nous intéresse davantage, ce sont ces situations professionnelles, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles peuvent émerger les compétences. Pourquoi c'est intéressant de passer sur les situations? C'est que, en même temps, ça donne un caractère de formation et formatif. Ça veut dire que si l'on explique à un professeur quelle est la situation professionnelle qu'il faut travailler, dans quelle situation professionnelle on doit placer l'élève, qu'est-ce qu'il doit apprendre de cette situation? Quels sont les savoirs qui seront peut-être mobilisables dedans? Quels sont les comportements qui sont peut-être attendus dans cette situation? Quels sont les résultats peut-être attendus? Comment la travailler, cette situation, en cours? Eh bien, on invite la formation au cœur même de la professionnalisation. Donc, il fallait faire le pas et créer un référentiel de situation professionnelle plutôt que de faire un référentiel de compétences. Alors, il y a un exemple dans la recherche qui a été faite, c'est Mayen, d'ailleurs, qui avait développé une recherche, qui avait écrit un article qu'il m'avait soumis, qui s'appelait « Vers un référentiel de situation ». Il l'avait fait pour l'enseignement agricole, pour un BTS d'aquaculture. Et donc, on a aussi, et donc, tout est dedans, tout est dans cet article, où on explique bien, effectivement, l'approche par les situations, etc., les enjeux qu'il y a derrière. C'est ce qu'on a essayé, effectivement, de mettre en musique dans ce référentiel GA. Donc, effectivement, quand on décrit un métier en situation professionnelle, et entre nous, soit dit, quand on travaille dans la journée, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de traverser des situations professionnelles différentes, peut-être, ou la même? Mais il n'est pas rare qu'à la fin de la journée, quand vous faites un peu la mémoire de ce que vous avez fait, vous avez peut-être traversé 3-4 situations professionnelles différentes qui ont été données et qui structurent le temps de travail. Et le temps de travail professionnel, c'est un enchaînement de situations professionnelles. Alors, un enchaînement de cours, mais un chef d'établissement, alors là, si on les faisait parler sur leur activité, il y a un enchaînement de situations professionnelles qui s'enchaînent avec des configurations différentes à chaque fois, etc., etc. Donc, professionnaliser quelqu'un, c'est l'habituer à enchaîner, à traverser des situations professionnelles en permanence. C'est tout le fondement, effectivement, de ce qu'on a voulu développer, en particulier plus tard, on en parlera, mais des scénarios de situation, c'est comment faire traverser des situations, des histoires professionnelles à des élèves pendant la formation. Bon, la compétence, je ne reviens pas sur les aspects un peu plus théoriques, c'est-à-dire la tâche, le prescrit, etc., sur la compétence, parce que, bon, on pourrait y passer la journée. Si, par contre, j'ai été un peu vite, quand même. Les situations professionnelles font émerger des compétences, on est bien d'accord. Elles se caractérisent, ces situations, par ces deux éléments qui nous semblent, d'ailleurs qui sont très partagés par l'ensemble des disciplines. À chaque fois qu'on veut parler de compétences, etc., on parle d'une situation qui est variable, qui n'est jamais la même, qui comporte des niveaux de complexité différents, des niveaux d'aléas, d'incidents différents. Et ça, quand vous interrogez alors les collègues de langue, les collègues de PS ou d'autres collègues, à chaque fois, ils le disent avec leurs mots, et même quand on regarde le préambule du socle commun, compétences et autres, il y a toujours, quelque part, de noter des situations inédites, plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles, etc. Ces deux critères de complexité d'une situation ou d'aléa sont assez fondamentaux de l'apparition, ou plutôt du niveau d'acquisition d'une compétence. Entre les uns et les autres, on sait très bien qu'un cours, une situation professionnelle donnée avec une classe donnée, il va se répéter peut-être le lendemain, mais peut-être avec des niveaux de complexité différents. Parce que ça sera jamais la même chose. Parce qu'il y aura peut-être eu aussi des aléas différents, un incident technique dans le cours, un absentéisme, une bagarre entre élèves, enfin je ne sais quoi d'autre. Donc on reproduit des situations professionnelles qui ne sont jamais les mêmes, qui sont frappées par la variabilité. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un de compétent ? C'est quelqu'un qui est capable de gérer la variabilité des situations professionnelles. Et forcément, ben, y a des différences entre nous. On n'est pas tous égaux devant la complexité, devant faire face à des aléas. On n'est pas tous les mêmes. Et là, on a donc finalement deux approches, complexité et aléas, qui peuvent nous permettre de commencer à évaluer les niveaux de compétences entre des individus pour une tâche donnée. Il y a certains qui ne vont pas aller au-delà d'un certain niveau de complexité ou d'un niveau d'aléa, ou d'autres qui, au contraire, s'en empareront, etc. Et ça, c'est très important, parce que évaluer la compétence, ça pose une vraie question dans le système. D'abord, le acquis, non acquis ne veut rien dire. Enfin bon, je ne reviens pas aussi sur les fondements de ça, ça ne veut rien dire du tout. La trilogie savoir, savoir-faire, savoir-être, ça ne veut rien dire du point de vue de l'activité professionnelle. On n'est jamais saucissonné comme ça quand on travaille. Hein. Et puis, alors, noter de 1 à 20 une compétence, en fonction de quoi ? Alors là, ça pose question. Et bien là, on commence à avoir apparaître des critères qui nous donnent effectivement des éléments d'évaluation. C'est pour ça que dans le référentiel, on a décrit les situations et on a même équipé ces situations de niveaux croissants de complexité, de niveaux croissants d'aléas. Ça, c'est pour permettre effectivement d'avoir des barrettes un petit peu, de regarder, de positionner, de pousser un peu plus la complexité pour tel élève parce qu'il peut prendre en charge, pas forcément avec tel autre, etc., etc. Bon, je vais là-dessus. Alors, sur la professionnalité, donc tout ça sur ce projet pédagogique, c'est bien beau, mais d'abord, ça a demandé, et ça c'est une vraie question qui me préoccupe, c'est qu'à nos enseignants, il a fallu qu'ils fassent preuve de compétences en matière d'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que pour une fois, on ne leur a pas donné un programme ou un référentiel et puis que l'on met en œuvre dans la classe. Il faut qu'ils organisent la formation dans son ensemble. C'est de l'ingénierie pédagogique. Alors, nos conseillers Greta savent faire. Hein. Les enseignants ne savent pas faire. On n'a pas été formés naturellement à dire, attendez, je prends une classe de seconde GA, comment j'articule ça sur les 3 ans ? comment je regarde après l'environnement technique, l'environnement numérique, comment l'articule là-dessus, comment on va planifier nos PFMP par rapport à tout ça, comment je fais le partage avec les autres collègues sur ça, sur quel outil, bref, tous des dispositifs de structuration, d'organisation de la formation qu'il faut mettre en œuvre si on veut mettre en œuvre cette rénovation. Et du point de vue de la professionnalité, c'est clair que là, ça a été effectivement un obstacle assez fort pour nos enseignants, parce que faut bien connaître qu'on n'est pas formé à ça. Donc ça, c'est important, d'autant plus que cette ingénierie pédagogique, il faut qu'elle se fasse à plusieurs. Donc là, il y avait encore une deuxième dimension dans l'ingénierie, c'était d'être résolument collectif. Et si la réforme, elle pose des vraies questions en ce moment, discriminatoires même, entre les établissements, c'est bien la capacité à travailler en collectif ou pas des professeurs. Je le dis très nettement, je pense que c'est une réforme qui est impossible à mettre en œuvre quand on veut travailler individuellement cette réforme. C'est pas possible. Donc ça pose le problème, effectivement, alors de professeurs isolés, mais là, les inspecteurs en parleront un peu plus, comment ils font, effectivement, pour créer peut-être des réseaux, etc. Ou de professeurs qui sont dans l'établissement et qui ne veulent pas se voir. Ça pose des vraies questions aussi. Par contre, à chaque fois qu'on a vu des vraies équipes qui s'en emparent ensemble, qui se mettent autour d'une table pour ça, eh bien, ce sont des projets qui ont plutôt poussé positivement et qui sont en train de pousser positivement. Le rapport au PFMP aussi, et là, on n'y est pas encore, mais c'est quand même une vraie question. Pour l'instant, on fait du suivi de stage, comme on dit. Et là, on ambitionne d'être dans le pilotage. Ça veut dire qu'un jeune qui va en PFMP, faudrait qu'il ait son menu à lui, en fonction de ce qu'il a déjà fait, d'être en cours ou dans les PFMP d'avant. Qu'est-ce qui lui reste un peu à traverser? Qu'est-ce qui lui reste à couvrir ou pas? Voilà. Et là, on est sur du pilotage pédagogique de la PFMP. Mais je sais qu'on n'en est pas encore là. Autre aspect, c'est l'existence même de la section gestion-administration dans les établissements. Et là, c'est en termes de rayonnement, mais c'est en termes d'existence aussi. On n'est pas confiné dans une salle, dans le bout de l'établissement, et puis ce sont les autres sections qui s'ébattent, qui participent à des projets, etc. C'est comment, effectivement, nos jeunes viennent s'inviter dans la vie même de l'établissement. Alors, il y a des choses superbes qui se font en ce moment, vous en parlerez bien mieux que moi, mais moi, j'ai déjà la chance de me promener un peu partout en France. On voit des choses extraordinaires de ce point de vue-là. Où on voit des jeunes qui naviguent dans les postes à l'intérieur de l'établissement, qui font de l'accueil vers l'accueil d'établissement, qui ensuite passent vers le secrétariat du proviseur, etc. Il y a des parcours à l'intérieur des établissements qui s'établissent. On voit aussi des jeunes quand il y a des manifestations. Alors il y a bien sûr les bacs pro-accueil qui nous font ça, mais on voit aussi des bacs GA qui viennent, et pas simplement pour faire de la parade et autres, parce que toute la manifestation a été accompagnée administrativement par eux, avant. Hein? On les voit qui viennent prendre effectivement des notes dans des réunions organisées par des chefs d'établissement, enfin, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis l'autre problème, effectivement, un problème, en tout cas un enjeu, c'est d'avoir un environnement technologique qui soit à la hauteur des ambitions professionnelles. Alors, en industriel, ça pose pas de problème. Hein. Quand on fait un bac pro industriel, on a les plateaux techniques qui vont avec. Ça ne pose aucun problème, c'est même indissociable. Et quand vous interrogez les collègues de l'industriel, ils vous disent, mais pourquoi? Non, il nous faut tout de suite les machines, il faut, etc. Parce que c'est important qu'on ait notre environnement industriel dans le lycée, dans l'établissement, dans le CFA, pour travailler effectivement les choses. Alors nous, quand on a dit qu'il fallait un vrai environnement numérique, technologique, on a dit, mais attendez, non, vous rigolez, un petit poste avec une suite bureautique et ça suffit. Non. Il faut un environnement intégré. Alors les logiciels de gestion intégrés, c'est la seule formalisation qui est actuellement de ce qu'on appelle les systèmes d'information. Le PGI, c'est un système d'information. Et la forme que ça prend, bah, c'est ce logiciel de PGI en tant que tel. Mais il fallait absolument sortir de cette espèce de victimisation où nos sections, il ne fallait pas qu'elles coûtent cher. Voilà. On a beaucoup d'élèves, mais en même temps, il ne faut pas qu'on coûte trop cher aux uns et aux autres. Ben non, bah, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement dans des environnements professionnels élaborés, sophistiqués. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore résolu, mais qui commence à l'être. Enfin, en tout cas, qui commence à faire. Didactique de situation, je vais aller très très vite. Quand je vous ai dit qu'on a fait un référentiel de situation, ça veut dire que derrière, il faut créer quand même une pédagogie et une didactique de situation. Parce qu'on n'apprend pas, on ne forme pas aux situations n'importe comment. Il y a des choses très très précises qui vont nous permettre de relever effectivement ce défi pédagogique et didactique. Alors, les éléments clés qu'il y a dans cette réforme GA pour travailler des situations professionnelles. Et le point commun entre tout ce qui est listé ici, ce sont les situations professionnelles. Première chose, garder la trace de ces situations professionnelles. Les mémoriser pour les retravailler. C'est quelque chose de fondamental. Et effectivement, donc on a introduit ce qu'on a appelé le passeport professionnel, parce que on ne voit pas d'autre moyen numérique pour garder les traces des situations et des activités. Et jusque-là, même si vous regardez ce qui s'est fait avant GA ou d'autres, oui, les équipes ont développé, vous savez, des carnets de bord, des tas d'outils papier, etc. Mais même des outils très sophistiqués, il y a énormément d'activités, de situations qui échappaient à cet outil, sur lequel on ne renaît pas, etc. Là, on a la chance, effectivement, d'être passé dans le numérique. Donc la question qu'on s'est dit, on a une chance unique d'avoir un outil qui puisse être utilisé partout où on est, en centre de formation, en PFMP ou même dans l'informel. Je me connecte et je peux éventuellement saisir une trace de cette situation. Donc on ne pouvait pas passer à côté de cette innovation du passeport pro, alors qu'il pose d'autres questions, parce que si vous parlez de passeport pro à des professeurs qui sont obnubilés par la certification, eh bien immédiatement cet outil est vidé de son sens. Il est immédiatement appauvri et vidé, parce qu'à chaque fois que l'élève va aller écrire dans son passeport pro, on va tout de suite lui dire « Attention, c'est pour l'obtention de ton diplôme, il faut que tu écrives bien, il faut que tu fasses des belles phrases, il faut qu'il n'y ait pas de fautes, etc. etc. » Donc on va l'éloigner même de l'objectif de garder une trace, aussi primaire soit-elle, de sa situation professionnelle. L'autre aspect qu'il y a derrière le passeport pro, c'est que d'abord c'est un dû qu'on doit aux élèves. On leur doit bien ça. On doit bien, à chaque élève, après ses 3 ans entre nos mains, eh bien, qu'il ait la trace de l'intégralité de ce qu'il a fait, ce qui n'existe pas pour l'instant. Pour l'instant, vous avez des dossiers professionnels pour les épreuves, mais les dossiers qui sont faits pour les épreuves, c'est pas très révélateur de ce qu'ils ont fait. Or là, chaque élève qui va sortir de GA pourra au moins avoir à sa disposition l'intégralité de ce qu'il a fait. Après, il en fait ce qu'il en veut, ça lui appartient. Donc le passeport pro est une propriété de l'élève, avant tout. C'est lui avec lui. S'il est mal rempli, s'il n'est pas complété comme il faut, etc., c'est lui avec lui. Hein ? Les scénarios pédagogiques, ça correspond à l'enchaînement des situations que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Générateur d'activités et de situations professionnelles. Grosso modo, on a maintenant des séquences pédagogiques qui ne sont plus des séquences pédagogiques, mais qui sont des vraies histoires professionnelles dans lesquelles les élèves vont jouer des rôles, ou même les professeurs jouent des rôles, et on a un enchaînement de situations qui arrivent, par mail ou par de quelque autre manière. Et donc on voit maintenant des jeunes qui sont pris dans des histoires professionnelles, qui sont gestionnaires administratifs, qui sont et qui ont un rôle à jouer, et qui ont des incidents qui arrivent par mail, etc., qu'ils doivent traiter immédiatement, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi j'ai même vu, l'autre jour j'étais dans un établissement, et le proviseur avait un grand sourire, vous vous rendez compte, ils sont tellement pris dans leur scénario qu'ils se sont mis en grève contre l'un d'entre eux, un gestionnaire administratif, un responsable qui n'était pas bon. Il y en avait un parmi eux qui était responsable administratif, ça n'allait pas, les élèves ont déclenché la grève. Et effectivement, le prof en a profité pour dire, mais vous êtes sûr, vous pouvez faire grève, à quelles conditions, le préavis, etc., etc. Et donc, immédiatement, ces histoires pro sont toujours susceptibles de nourrir des connaissances derrière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qu'il faut bien voir, effectivement, dans les projets pédagogiques qui sont donnés. Alors, on a appelé ce qu'on a appelé les simulateurs administratifs. Et dans le tertiaire, nous avons des simulateurs. En bac pro commerce, vous savez, il y a eu des boutiques de fête à un moment donné dans les établissements scolaires. En entrepôt, aux âges, etc., vous avez des boutiques aussi qui se font. Et on met les jeunes dans des simulateurs, dans ces environnements professionnels reconstitués. Et effectivement, on peut jouer les rôles. Eh bien, nous, c'est la même chose dans nos environnements professionnels. On essaie d'installer ces simulateurs professionnalisants un peu partout. Bon, les savoirs situés et ateliers rédactionnels, c'est parce que dans certaines situations de travail, les exigences rédactionnelles sont plus vives qu'ailleurs. De mémoire, il doit y avoir une bonne quinzaine dans notre référentiel où les exigences rédactionnelles sont impératives. Eh bien, ces exigences rédactionnelles, on s'est dit, il faut qu'elles soient travaillées avec des spécialistes. Elles ne peuvent être, bien sûr, avec des professeurs d'économie-gestion, mais il faut que les profs de lettres viennent travailler sur ces objets-là. Et l'idée, si vous voulez, d'un prof de lettres, c'est qu'il va avoir un objet professionnel sur lequel travailler avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas un artifice pédagogique pour l'enseignement conjoint et autres. C'est qu'il faut que les enseignements généraux et les enseignements professionnels se retrouvent ensemble, mais sur des objets précis. Je ne vais pas te dire qu'il faut faire de l'interdisciplinaire pour faire de l'interdisciplinaire. Or là, il y a une situation professionnelle à travailler, peut-être une demande d'autorisation à une mairie pour un événement donné. Travaillons ça. Et c'est vrai que si l'élève ne connaît que le présent de l'indicatif pour faire la demande d'autorisation, il aura un refus. Je veux. Ça ne marche pas. Donc il commence à se dire peut-être que le conditionnel, je voudrais ou je solliciterais, c'est un peu mieux pour avoir une autorisation. Donc c'est comme ça que se travaillent les savoirs rédactionnels en situation professionnelle. C'est comme ça que ça se travaille. Et donc il faut avoir un objet partagé et des contraintes de situation professionnelle pour pouvoir aborder le rédactionnel. Mais il ne s'agit pas d'en faire des génies de l'orthographe, des génies de la syntaxe, c'est pas ça. C'est qu'ils puissent faire face à des situations professionnelles qui appellent effectivement des compétences rédactionnelles à tel moment. Alors les progressions, effectivement, on progresse par les situations. Donc il faut accumuler les situations de travail. Le deuxième point, je vais retenir que celui-là parce que ça concerne la professionnalité des enseignants. Tout ça, ça marche si on ne fait pas l'impasse d'une phase extrêmement importante d'un élève qui a agi et qui ensuite doit expliciter ce qu'il a fait. La phase d'explicitation, je ne reviens pas sur les substrats théoriques qu'il peut y avoir derrière, mais c'est fondamental. Il faut qu'un élève, quand il agit, ou qu'un jeune en formation, quand il agit, il faut qu'ensuite il puisse avoir un espace où il en parle, où il l'exprime verbalement, ou par écrit, peu importe, mais qu'il en parle avec un médiateur, un professeur en particulier, ou un formateur. C'est Vygotsky, c'est la médiation culturelle. C'est tout ça qu'il y a derrière, parce que l'acquisition de l'apprentissage, il se fait toujours en faisant et en explicitant ce qu'on a fait. C'est indissociable, ces deux éléments-là. C'est pour ça que, certes, en ce moment, on a des enseignants qui disent « Moi, les élèves, ils aiment bien faire, mais par contre, ils n'aiment pas écrire ou raconter ce qu'ils ont fait. Ils pensent que c'est du temps perdu. » Et oui, qu'ils pensent que c'est du temps perdu, parce que nous, dans nos professions, on ne le fait jamais, on ne le fait plus. Mais quand on est en apprentissage, quand on est en professionnalisation, il faut prendre le temps d'en parler, le temps de l'expliciter, avec ses propres manières de le faire. Pour ça que très concrètement, quand vous avez des élèves qui font des activités professionnelles et qu'ensuite qu'ils essaient de la mettre, de l'expliciter sur un passeport pour échanger avec leur prof, ils vont l'expliciter avec leurs mots. Mais au fur et à mesure où ils vont avancer dans la formation, ils ne vont pas décrire les choses de la même manière. Et ça, c'est assez fondamental. Il y a eu une super interview qui a été faite, je crois, à Lyon, où on voit une jeune qui est en première, qui dit « Moi, j'avais rempli des situations en seconde. Quand j'ai vu ce que j'avais écrit, je n'arrivais pas à me relire. Il a fallu que je refasse toutes mes fiches avec d'autres mots, parce qu'elle avait progressé au niveau de ses connaissances, parce qu'elle avait progressé au niveau de sa professionnalité. » Donc la phase d'explicitation est fondamentale. Et pour le coup, c'est la deuxième compétence en dehors de l'ingénierie qui n'est pas acquise par nos professeurs, parce qu'on n'a jamais travaillé à faire expliciter une situation de travail aux élèves. Et pourtant, ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des outils, il y a des recherches qui sont faites là-dessus sur l'explicitation et autres, et c'est un vrai axe de formation. Donc l'explicitation est importante, en particulier pour voir tous les tâtonnements, les erreurs et autres. Bon, les postures réflexives, les regards croisés, mais ça, je vous laisserai tout ça. Les groupes de pairs, voilà aussi dans la professionnalité, quelque chose à laquelle on n'est pas habitué, c'est qu'on pense toujours que les élèves apprennent avec nous. Rien qu'avec nous. On ne soupçonne pas ce qu'ils peuvent apprendre entre eux. Quand ils sont à 3 ou 4, ils ont vécu à peu près la même situation professionnelle. Échangez entre vous, regardez ce qu'il y a de commun, regardez ce qu'il y a de différent. Ils apprennent, ils sont dans l'apprentissage, ils explicitent entre eux ce qu'ils ont fait, ils s'interrogent et ils sont en train d'acquérir de la compétence en dehors de vous, en dehors de nous. Et c'est tout aussi bien. Et c'est tout aussi efficace. Donc il ne faut pas chercher à être au cœur de chacune des situations professionnelles, au cœur de chacun des apprentissages pour pouvoir tout contrôler. D'abord parce qu'on explose, c'est pas possible. Et deux, ils seront aussi efficaces à échanger entre eux sur leurs expériences professionnelles, en termes d'acquisition. Quand quelqu'un va dire « raconte-moi ce que tu as fait, attends, je ne comprends pas ce que tu dis, etc. », ils sont en train de se faire progresser, ils sont en train de faire de l'explicitation sans le savoir. Donc il faut développer effectivement les groupes de pairs, les petits groupes entre eux, sur des situations communes, on a vécu à peu près les mêmes situations professionnelles, etc., etc. Le problème des enseignants en termes de professionnalité, c'est quel est le rapport qu'ils ont au référentiel. Est-ce que les enseignants lisent beaucoup la description du métier ? La première partie du référentiel, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui guide leur choix pédagogique. On le lit bien première fois, en général, je l'ai fait, hein, j'étais professeur aussi. Là. Mais après, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Or, on devrait se dire en permanence, quand on est un formateur ou un enseignant, je vois mes élèves en train d'être engagés dans des scénarios pédagogiques, est-ce que je vois le métier de gestionnaire administratif quand je les vois évoluer ? Est-ce que pour moi, ils sont dans des configurations de gestionnaire administratif ou pas ? On pourrait avoir toujours ce regard un peu en permanence là-dessus. Certains des professeurs l'ont. Hein. À la limite, je dirais, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est d'être de veiller à chaque fois à ce que leurs élèves soient en activité comme des gestionnaires administratifs ou comme des gens de l'accueil et autres. Autre point qui est interrogé, c'est les enseignements généraux et les enseignements professionnels, le rapport entre les deux, la situation de travail, elle fédère tout ça. Dans nos situations de travail, il y a des savoirs juridiques qui sont nécessités, il y a des savoirs rédactionnels, des savoirs en com, des savoirs de comptabilité de gestion qui sont mobilisés, et donc il faut que tous ces enseignants, effectivement, se rapprochent dans leur regard conceptuel entre eux. Ça, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on va demander à un tuteur aussi ? D'après ce qu'on s'est dit ici, ce qui serait génial comme tuteur, c'est un tuteur qui dise à un jeune « Écoute, tu as bien travaillé avec moi, ce qui serait bien, c'est que tu prennes un petit temps en fin de journée pour, allez, mets à jour un peu ton passeport, puis j'aimerais bien voir ce que tu racontes sur ce passeport, si moi je comprends ce que tu as dit. » Ça serait l'idéal, un tuteur comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui ferait expliciter à l'élève, saisir en direct, et auquel cas l'apprentissage se fait presque en direct. Situation observée, vécue, simulée, alors là, du point de vue de la recherche, c'est clair et net, elles ont le même statut en termes d'apprentissage. Ça a la même valeur. On partait toujours un peu de l'espèce de valeur qu'on fera dans l'enseignement professionnel, qui est de dire, tant que l'élève il l'a pas vécu en PFMP, ça vaut pas en termes d'apprentissage. Il n'a fait qu'observer, c'est pas bon. Ou il a simulé, mais c'est pas bon. Donc il y a une espèce de sacralisation du réel qui est beaucoup trop forte. Or, là aussi, les recherches nous montrent que, de toute manière, ces trois types de situations, j'allais presque dire aussi témoigner, c'est-à-dire qu'un professionnel qui vient de témoigner d'une situation professionnelle devant un groupe, ça a la même efficacité, parce que derrière, on peut avoir de la conceptualisation et autres derrière, ou de l'explicitation. Donc, toutes ces situations-là valent la même chose en termes d'apprentissage. Il faut quand même un petit peu s'en persuader. Hein. Bon, les traces d'activité, on l'a vu, et comment est-ce que effectivement toute une équipe peut accéder aux situations de travail des élèves. Là encore, on a l'outil numérique qui devrait, de mon point de vue, être ouvert à l'ensemble des équipes pédagogiques. Tous les professeurs, lettres, histoire, géographie, etc., devraient avoir accès à ces situations professionnelles des jeunes, et puis les utiliser, les réinvestir s'ils veulent, effectivement, dans leur classe, et que ça soit pas la chasse gardée, peut-être, du professeur d'économie-gestion, et que de lui. C'est un espèce de trésor de guerre, de trésor commun et partagé qui doit être investi par tous les enseignants et retravaillé par tous les enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Nécessité de former à l'entretien d'explicitation, effectivement. Bon, sur l'évaluation proprement dite, ça change la professionnalité des enseignants parce que effectivement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le résultat atteint est signifiant de la compétence ? Je vais aller très simplement, mais il y a quand même une approche nord-américaine qui est de dire, pour savoir si quelqu'un est compétent, vous regardez le résultat de ce qu'il a fait. Je regarde le résultat, si c'est parfait, il est compétent. Une approche un petit peu par le résultat. Une autre approche qui est de dire davantage, c'est plutôt la démarche d'aboutissement à ce résultat qui nous intéresse pour savoir si vous êtes compétent ou pas. C'est-à-dire pas tant le résultat en lui-même, qui d'ailleurs peut être imparfait, mais que vous puissiez me dire, progressivement, comment vous y êtes arrivé, quelles erreurs vous avez commis, quel tâtonnement, quel choix vous avez fait, et est-ce que vous vous rendez compte aussi de l'imperfection, de ce qui, etc., etc. C'est donc travailler sur la démarche de production qui nous intéresse davantage. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental dans le terme d'évaluation. Et c'est le choix, effectivement, qu'on a fait, en tout cas sur GA. Ce qui nous intéresse, mais on sait qu'aussi dans le matière administratif, on a quand même une vraie valeur culturelle, qui est de dire il faut un document parfait, une forme de focalisation sur la perfection des documents. Mais tant mieux. Mais en même temps, il faut pouvoir s'en détacher. Ce qui n'est pas simple pour tous nos professeurs. ce qui n'est pas simple pour tous nos professeurs. On peut très bien avoir une lettre imparfaite, et si l'élève vous dit effectivement les tâtonnements, les erreurs, la conscience qu'il a de l'imperfection qu'il peut y avoir derrière, c'est quelque chose de très important. Autrement, je vous ai dit, il y a deux critères qui me semblent très très importants. Je peux évaluer la compétence avec le niveau de complexité et de... Alors, criticité, c'est les aléas, les imprévus, les incidents. Jusqu'où l'élève est allé et jusqu'où il ne pourra pas aller. Parce que là aussi, on est un peu... On est inégaux devant la compétence. Hein. On n'a pas les mêmes, effectivement, valeurs là-dessus. Et ça, c'est la même chose. Bon. Conceptualisation, c'est un petit peu plus élaboré, mais si je vous demande à vous, qui êtes des professionnels expérimentés, de me raconter ce que vous faites, vous allez peut-être me dire, eh bien, moi, il y a 3 temps dans mon métier, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Implicitement, vous racontez votre métier en le structurant. Si vous demandez à un jeune élève qui débute comme ça, raconte-moi ta situation, il va raconter la petite histoire. J'ai fait ça, puis après j'ai fait ci, puis ensuite il y a eu ça, puis après j'ai fait ci, puis après j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'il est dans un langage très descriptif de ce qu'il a fait. Alors que nous, quand on commence à progresser dans la compétence et dans la professionnalisation, on commence à avoir des langages beaucoup plus analytiques, structurés, pour exprimer nos activités professionnelles. C'est ce qu'on appelle la compétence qui s'entend. Et quand vous interrogez un jeune en terminale, 2 jeunes en terminale que vous interrogez, eh bien, il y en a certains qui va parler de son activité en le structurant, en commençant à conceptualiser ce qu'il dit, et il y en a un autre qui va encore rester dans la petite histoire. C'est ce que les professeurs nous disent, hein, quand ils disent il est resté dans le descriptif, alors que lui, au moins, il y avait de l'analyse, comme on dit entre nous, comme ça. Eh bien, c'est ça. Et ça, c'est un révélateur aussi de la compétence. C'est celle qui s'entend. Et c'est très important, dans le passeport, comment est-ce qu'on raconte une action? Au départ, en seconde, il raconte « j'ai fait ça, puis après j'ai fait ci », etc. Et petit à petit, de manière plus évoluée, eh bien, on va commencer à voir apparaître du 2 points tirés, une démarche, des choses comme ça. Et ça, c'est un signe d'évolution de la compétence, important. Bon, la généralisation, c'est aussi un autre principe, c'est que je suis formé à une situation professionnelle, il faut que je sois capable de me transporter vers une autre situation professionnelle. Si je reste que dans la même situation à données strictement identiques, c'est pas de la compétence, c'est de l'habileté. Je fais les choses très très bien, mais je ne change aucun paramètre. Et dès qu'on change un paramètre, je suis perdu. C'est la grande différence entre, encore une fois, le geste et la compétence. L'habileté et la compétence, c'est effectivement faire face à de la variabilité. Et ça, c'est une vraie différence, effectivement, dans l'approche par compétence. Et donc pour ça qu'un élève qui vous dit « écoutez, voilà ce que j'ai fait, c'est très bien fait, le résultat est bien », immédiatement, le professeur ou un de ses pairs devrait dire « d'accord, et si je change ça, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu aurais fait ?» C'est là qu'on commence à travailler la compétence, quand on le met en face de la variabilité. Quand on lui fait bouger les curseurs pour modifier la situation dans laquelle il était. Et c'est fondamental, effectivement, dans les enjeux. Donc tout ça... Eh bien, dans la certification, en particulier dans l'évaluation, ça interroge la professionnalité. Il faut échapper effectivement à la production de preuves. Souvent, en France, on interroge, on veut des preuves. Je veux être sûr que ce soit vous qui avez fait ça, etc. Donc, on devient des détectives quand on interroge. Alors que d'abord, la plupart du temps, on n'a pas les moyens d'ailleurs d'aller vérifier. Il vaudrait mieux entendre, interroger sur les erreurs, les tâtonnements et autres. Ça serait plus efficace. Et puis souvent aussi, on voudrait que l'activité qu'il a faite, ça se soit passé comme ça, dans une optique normative. Attends, mais pour faire un compte-rendu, d'abord il faut faire ça, ça, ça. Pourquoi tu l'as pas fait? C'est de l'anticompétence. Je rappelle qu'une des composantes de la compétence, c'est de pouvoir transgresser les procédures, de pouvoir transgresser le prescrit, de pouvoir échapper aux ordres pour inventer ses propres chemins. Donc, quand j'interroge un élève pour lui dire « j'espère que tu as fait ça dans tel ordre, dans tel ordre, dans tel ordre », on est en train de vérifier qu'il est conforme à une norme, donc qu'il n'est pas compétent. Qu'il n'est pas compétent. C'est pour ça que vous avez des élèves, en termes de comportement, au début, on leur dit « il faut sourire aux clients ». Donc, ils arrivent vers vous et ils sourient. C'est pas de la compétence, c'est du geste. Et il y en a d'autres qui ont compris qu'ils pouvaient sourire autrement, avec le corps, avec les mots, avec le regard. Ça, c'est de la compétence. Je transgresse la première préoccupation, la prescription qui était le sourire, par mes propres chemins à moi. Donc, effectivement, essayer d'approcher l'activité par une autre optique que l'optique normative, c'est fondamental pour nous, en tout cas dans le projet qu'on avait. Bon, les situations vécues, j'en ai parlé, etc. Donc, interrogeons quel rapport on a au référentiel. Est-ce que ce référentiel, ça va être un outil pour nous pour s'imprégner de la professionnalité exigée du jeune? Donc ça, c'est la description du métier. Est-ce que ce référentiel, c'est, je vais le considérer comme un outil de formation, c'est-à-dire qu'il va m'aider à construire ma formation? Ça veut dire qu'il faut que je débarrasse le référentiel, je dis, de tout caractère normatif. Si je veux être compétent pédagogiquement, plus je considère le référentiel comme du prescrit, et moins je vais être compétent pédagogiquement. Donc, les meilleurs professeurs, et vous le savez, ce sont ceux qui disent, il y avait le référentiel, je me suis arrangé avec le référentiel, avec mes collègues, on a préféré faire ça dans tel sens, dans tel ordre, etc. On a pensé qu'il était mieux d'eux, etc., etc. Ça, ce sont des professeurs, effectivement, qui s'en emparent d'un point de vue de la dynamique pédagogique et de la compétence pédagogique. Dynamique collective, on en a parlé. Je pense qu'elle est impérative. On ne peut pas faire autrement. La simplexité, on le voit en ce moment. Quand on veut essayer d'initier quelque chose de simple, on va d'abord passer vers une grande complexité. Et on voit des professeurs qui sont engagés par des réflexions, mais qui complexifient les choses, pour ensuite sans doute arriver à quelque chose de plus simple. Mais on est obligé de passer par cette phase extrêmement complexe. Je crois que bon nombre de nos professeurs sont dans cette phase-là, en GA. Ils se sont dit, il y a 55 situations, des aléas, des tas de choses, etc., je ne pourrais jamais faire, ainsi de suite. Et ils vont découvrir qu'effectivement, ben finalement, on peut s'arranger de tout ça de manière très très simple. Normativité, c'est très difficile dans l'accompagnement et dans la formation, parce qu'à la fois les professeurs nous réclament du prescrit, nous réclament des guides, nous réclament des repères en permanence et donc ne peuvent plus, d'une certaine manière, exercer aussi leur liberté pédagogique. Et plus on met de prescrits là-dessus, et plus on les rend quelque part incompétents, de ce point de vue-là. Donc il faut pouvoir jongler entre donner des repères, mais qu'ils puissent conserver leur liberté, à condition qu'ils veulent prendre cette liberté. Ce qui n'est pas le cas de tous les professeurs. Il y a certains professeurs qui ne veulent pas de liberté pédagogique. Je jette peut-être un pavé dans la mare, parce que c'est quand même sacralisé, la liberté pédagogique. Mais en même temps, il faut faire quand même avec des professeurs qui n'en veulent pas. Qui n'en veulent pas. Donc il faut travailler quelque part beaucoup plus loin que effectivement l'adoption d'un référentiel. La temporalité, c'est aussi un écueil qu'on a en ce moment dans la professionnalité. C'est qu'un professeur qui lit un référentiel, tant mieux pour lui, mais il veut être bon tout de suite. Il veut être très bon tout de suite. Moi, je l'ai dit à tous les professeurs, on l'a dit dès le début, pour moi, s'emparer de la rénovation GA, il faut au minimum, pour chacun d'entre nous, au moins 3 ans de pratique. Au minimum. Au minimum 3 ans de pratique. Ça veut dire qu'il faut se donner du temps pour progresser sur tel aspect, puis tout doucement progresser sur tel autre, etc., sans qu'on ait effectivement une exigence impérieuse d'efficacité à très très court terme. Parce que ça crée beaucoup de mal-être chez des professeurs qui vont se mettre cette pression. Voilà. Je termine toujours par cette phrase de Vygotsky, mais c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul, parce que je crois qu'elle est assez fondamentale dans l'échange avec des formateurs, avec des professeurs, entre les professeurs. C'est par les échanges entre pairs, etc., ça c'est quelque chose de fondamental, effectivement, pour progresser. Voilà. Et désolé pour le retard.